Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte.
Bentornati ad Ondivago. Questa puntata è interamente in francese ed è stata realizzata da Anna Raffaella Farao. Si parla di stampe giapponesi e prosegue così l'interesse di Ondivago per il Giappone, per la sua cultura, così ricercata e raffinata, e per una volontà che sfida le avversità naturali e umane. Ma lascio la parola ad Anna Raffaella Farao. Trovate sul sito di Ondivago tutte le puntate in francese e il link al suo libro. Buon ascolto!
Konnichiwa. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des estampes japonaises et plus précisément de l'histoire de l'ukiyo-e. Mais avant cela, vous savez qu'il y a un rébus, alors je vais vous l'énoncer. Mon premier coule de source. Mon deuxième est le verbe coudre à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Mon troisième est un condiment odorant. Et mon tout est un peintre japonais. Avant de vous parler des estampes dans le détail, il est utile de donner la définition de l'ukiyo-e. Vous vous rendrez compte au cours de cette émission que le monde de l'art japonais est très riche, très précis. Pour chaque représentation, qu'elle soit florale, animale, humaine ou paysagiste, correspond une appellation. À chaque format, dans chacun des thèmes, à chaque technique et à chaque couleur, correspond une dénomination spécifique. L'estampe basique est le sumizuri-e. Toute première estampe à l'encre noire en un seul passage. Les images sont dessinées à gros traits simples, en monochromie. Elles sont en quelque sorte une chronique de la vie quotidienne. Elles étaient ce que l'on appellerait de nos jours les premières bandes dessinées à cette époque reculée. Pas évident pour un néophyte de s'y retrouver tellement l'art pictural du pays du soleil levant est varié et raffiné. Comme définition de l'ukiyo-e, je dirais que c'est l'expression de la peinture du genre très populaire ou image du monde flottant. C'est avant tout une imbrication et une harmonie entre peinture, gravure et imprimerie. Il faut parfois jusqu'à 10 planches gravées pour colorier une estampe. Les couleurs sont passées soit avec un pinceau, soit avec un tampon que l'on frotte. C'est au XVIIe siècle qu'apparaissent les premiers ukiyo-e à Edo, ancien nom de Tokyo, qui est la capitale actuelle. Ces images racontent la vie urbaine que les Japonais définissent comme étant le monde flottant. Celles-ci sont d'abord gravées dans le bois, puis imprimées pour des reproductions en série, pour contenter le plus grand nombre d'amateurs. Parmi ces variations, on trouve les bijinga, qui est la représentation de jolies courtisanes, de geishas, mais aussi de femmes appartenant à la bourgeoisie. Il y a les yakusha-e, qui sont des représentations d'acteurs de rôles populaires, de théâtre kabuki, qui est un genre entre le chant et la danse. C'est un art dramatique populaire qui s'est développé à la fin du XVIIe siècle. Tous les rôles sont joués par des hommes. Ishikawa Moronobu, né en 1618 et mort en 1694, est considéré comme le premier artiste à avoir dessiné et imprimé des ukiyo-e. Né dans une famille de brodeurs et de teinturiers, très tôt il dessina des motifs de tapis et de kimono, ce qui explique son goût pour le détail et l'ornement. La typographie venant de faire son apparition lui permit de développer son propre style spécifique à Edo, qu'il appelle Yamato Ukiyo-e, ou image du monde flottant de Yamato. Yamato étant le nom ancien du Japon. La progression technique permit au fur et à mesure de rehausser à la main, avec le vermillon, le jaune et le vert, ces images qui furent alors appelées Tan-he. Par ailleurs, grâce au théâtre Kabuki, se développe un autre courant, dû aux portraits d'acteurs se multipliant, et les Yakusha-e firent ainsi leur apparition. Les décors fastueux et des illustrateurs officiels tels que Tori Kiyonobu, de 1664 à 1729, virent le jour. Les artistes de cette période peignaient affiches, programmes de théâtre et portraits d'acteurs. N'oublions pas que la photographie et la photocopie n'existaient pas encore. Les productions d'affiches du Kabuki conduirent vers un nouveau style appelé Aragoto, qui mettra en valeur le physique musculeux des acteurs. On pourrait définir ce nouveau style comme une forme d'expression de déclamation grandiloquente et emphatique. Ce sera grâce à l'artiste Okomura Manasobu, 1686-1764, 18e siècle, que l'on verra un changement de style. Il freinera ainsi le monopole du Yakusha, portrait d'artiste donc, en développant le Bijinga, autrement dit portrait de belles femmes, courtisanes, bourgeoises ou prostituées, qu'il représentera avec élégance en incorporant une autre couleur, le pourpre ou beni, qu'il mélange à l'indigo et au jaune. C'est alors que naquit le beni-e. Manasobu fut également le créateur de l'urushi-e, qui est une estampe primitive sur laquelle on applique de la colle à la peinture noire pour donner un aspect laqué aux vêtements des personnages. L'image saupoudrée ensuite de poudre de cuivre donne un aspect et un effet brillant comme recouvert d'or. Manasobu sera également le premier auteur des Yashira-e, qui sont des estampes longues et étroites que l'on suspend des colonnes. Leur dimension est de 70 cm de haut sur 20 cm de large. Son genre sera reconnu comme très élégant et coloré. Ce sera le premier à s'inspirer de la peinture occidentale en donnant les fondements à travers la perspective et la peinture paysagée. C'est au XVIIIe siècle que les impressions couleurs venues de Chine ouvriront la voie à des techniques nouvelles qui s'ajouteront à celles déjà existantes. Après un frottage à l'encre noire, la feuille est imprimée avec une deuxième couleur, le rouge ou le vert, d'où le nom de ce type d'estampe, Benizuri-e, tiré du nom du pigment pourpre utilisé. Pour insérer ou superposer une polychromie, on utilisera alors la technique appelée Kento, avec des repères de positionnement gravés en relief dans les angles des planches, afin que la superposition de tous les passages des couleurs soit exacte. Vers 1764 apparaîtront les estampes calendriers. En effet, les gens aisés d'Edo se prennent d'engouement pour ses nouvelles collections sophistiquées et néanmoins coûteuses dénommées Nikishi-e ou Images de Brocard. Ce fut Suzuki Harunobi, 1725-1770, qui les mit au goût du jour et développa amplement ce genre nouveau.
Vous écoutez Ondivago avec Anna Raffaella Farao. Ondivago.com.
La fin du XVIIIe siècle fut l'âge d'or de l'ukiyo-e. Le nombre de graveurs augmente avec la prospérité de la population d'Edo et ce style arrive à son apothéose. Un nouvel artiste, Kitao Shigemasa, 1739-1820, spécialisé dans l'illustration de Eon, ou livre illustré, marquera cette époque aux femmes graciles, il préférera les femmes plus en chair. C'est vers 1789 à 1801 que l'estampe atteint son apogée. Ce sera Kitagawa Utamaro qui marquera le 19e siècle. Il innovera en créant ses chefs-d'œuvre représentant des personnages féminins assis, des portraits en gros plan, de profil ou trois quarts, appelés Okubi-e. Il est également le créateur du fond en mika, ou kira-e, en japonais. Le kira-e est une technique qui implique deux planches. La première supporte la couleur de base, la seconde la colle. Le papier est ensuite posé sur les planches et saupoudré de mika alors qu'il est encore humide, ce qui donne un fond argenté. C'est au début du 19e siècle que les artistes japonais entrent en contact avec la peinture occidentale et entament ainsi les bases de la gravure de paysage qui influencera Katsushi Kaokusai. Son nom ne vous est probablement pas inconnu. Chacun aura vu une fois dans sa vie la reproduction de cette magnifique vague déferlante tirée de l'estampe La Tempête au large de Kanagawa. Un magnifique Yoko Oban que vous pourrez admirer sur le net pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous invite également à découvrir les 36 vues du mont Fuji que j'ai sous les yeux et qui sont une pure merveille. Inutile de vous préciser que la photographie et la lithographie accueillies avec enthousiasme au pays du soleil levant sonnera le glas de l'ukiyo-e dû à l'occidentalisation culturelle du Japon. Les influences seront communicantes, c'est-à-dire que l'Occident influencera le Japon, mais le Japon aura également un impact sur l'art européen. Ces images imprimées sur une feuille de papier japonais feront le tour du monde et feront en sorte qu'un nouveau courant modifiera en le régénérant l'art occidental, marqué par un esthétisme à la japonaise. Se répercutant dans divers domaines qui iront de l'artisanat au design à la peinture. Van Gogh, Gauguin, Lautrec, Klimt, Schiele en sont les témoins. À propos de Van Gogh, il y a un exemple frappant de cette influence venue d'Extrême-Orient. C'est le tableau Le Pont sous la pluie qui date de 1887, qui s'inspira d'une gravure de Hiroshige. Le pont Ohashi est attaqué sous une averse datant de 1857. Je ne pouvais vous abandonner à vos rêveries sans vous parler de Katsushi Kaokusai, né le 12 octobre 1760, mort en 1849 à l'âge de 89 ans. Il naquit à Honjo, dans la banlieue de Edo. Il fut un des grands maîtres de l'estampe japonaise. Si Mozart fut un virtuose à 6 ans, Okuzai commença à peindre à l'âge de 6 ans. Il publia ses premiers portraits d'acteurs vers 1779 sous le nom de Shunro. Il écrivit également des romans populaires et publia son premier livre illustré de ses propres estampes en 1782. C'est en 1797 qu'il changea son nom, devenant Okuzai. Ce fut un grand tournant artistique où il s'essaya tous les genres de l'ukiyo-e. Vers 1805, il commença l'étude de la peinture chinoise et à l'illustration du roman. Il publia, à partir de 1814, de nombreux mangas. C'est vers 1820 qu'il réalisa des gravures de paysages, d'où les célèbres ponts de toutes les provinces. Les séries les plus connues sont les 36 vues du mont Fuji et les 3 volumes de 100 vues du mont Fuji, considérés comme étant l'apogée de la peinture du paysage et le summum de sa carrière. Sa vie fut très agitée, passée la plupart du temps dans la misère, au cours de laquelle il changea 20 fois de nom et déménagea 93 fois. Il se maria 2 fois, eut plusieurs enfants. Son œuvre est composée de 30 000 feuilles et d'illustrations de 500 livres. On l'appelait le fou de peinture et réalisa ses plus belles œuvres vers 60 à 70 ans. C'est le monde de l'Extrême-Orient qui se reflète dans son œuvre. Il traita tous les thèmes, des maisons closes aux images pieuses, plantes, paysages, caricatures. Pour peindre, il utilisa des œufs, des bouteilles, des balles de paille, des balais, des sacs de riz, ses doigts. Ce fut un artiste de l'improvisation. Je vous invite à découvrir ses œuvres qui sont une explosion de couleurs, de lignes, de courbes qui nous plongent dans le Japon du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. C'est un régal pour les yeux, vous ne serez pas déçus. À ce sujet, pour les néophytes et les curieux, il y a un très bel ouvrage que je vous conseille aux éditions Tachen de Gabriel Farr Baker, intitulé « L'estampe japonaise », duquel je me suis inspirée pour cette séquence d'Ondivago. Il est temps de vous donner la solution du rébus. Mon premier donc était « coule de source », c'est l'eau. Mon deuxième est le verbe « coudre » à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, c'était « couze ». Mon troisième est un condiment odorant et c'est l'ail. Et mon tout est un peintre japonais, il fallait deviner « okuzai ». Okuzai. Il ne me reste plus qu'à vous dire « Sayonara, au revoir et à bientôt sur Ondivago.
Abbiamo ascoltato la puntata in francese di Ondivago, dedicata alle stampe giapponesi. Al microfono Anna Raffaella Farao. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito ondivago.com. Sempre sul sito trovate il link al libro Il pianeta blu Myosotis, di cui Anna Raffaella è autrice. Un libro bilingue. Una saga che presto ritornerà sulle nostre onde.
Divago, parcours ondoyant à travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info, ondivago.blogspot.com. Email, ondivagoradio@gmail.com.